c'est parti.
Travailleuses, travailleurs, chers camarades, chers amis, nous sortons donc d'une année de campagne électorale. Pendant un an, nous avons eu droit au cirque habituel du changement et du renouveau. Tous les candidats, et en premier lieu, bien sûr, Macron, ont promis que plus rien ne serait jamais comme avant. Tout ça pour que le nouveau président de la République reprenne les attaques anti-ouvrières exactement là où Hollande les avait laissées. Et puis, vous l'avez entendu, les opposants à sa politique sont des fainéants, des cyniques, ou alors, ils foutent le bordel. Eh bien, pour un président qui nous promettait de faire la politique autrement, on n'est franchement pas dépaysé. Parce que Macron se prétend moderne, mais il nous resserre la vieille soupe patronale. La baisse de l'impôt sur la fortune, la baisse des impôts patronaux, la casse du code du travail. Et c'est toujours le même mensonge. Facilitons les licenciements, et il y aura des embauches. Mettons de la flexibilité, cela créera des emplois. Que les riches s'enrichissent, cela ira mieux pour tout le monde. Cela fait 20 ans, 30 ans, que tous les politiciens de droite et de gauche nous chantent cela. Les cotisations patronales ont été baissées. La flexibilité et la précarité se sont généralisées. Le code du travail a été révisé 5 fois, 10 fois. Pour quel résultat ? Est-ce qu'il y a eu une baisse du chômage ? Est-ce qu'il y a eu plus d'embauches pour les jeunes ? Bien sûr que non. Tout ce qui a augmenté sont les dividendes, la rentabilité, les profits. L'année 2017 s'annonce déjà comme un creux exceptionnel, avec rien que pour le premier semestre 2017, 52 milliards de bénéfices annoncés par les entreprises du CAC 40. Et avec la politique de Macron, cela va continuer. Au budget 2018, il y a plus de 5 milliards de cadeaux offerts aux plus riches. Pour les classes populaires, c'est la hausse de la CSG de 1,7 point, c'est l'augmentation du prix des carburants, l'augmentation du forfait hospitalier, l'augmentation du paquet de cigarettes. Les APL ont baissé de 5 euros au 1er octobre. Mais c'est 50 euros de baisse par mois qui sont prévus pour 2018. Et puis, il y aura la suppression de 120 000 contrats aidés. Dans la fonction publique, les salaires seront gelés, le jour de carence rétabli et 1 600 postes seront supprimés. Après tout cela, le gouvernement assure que la grande majorité des classes populaires n'y perdra pas, parce que dans le même temps, il va supprimer pour beaucoup la taxe d'habitation et baisser les cotisations salariales. Ce sont des tours de passe-passe. Le gouvernement donne d'une main pour reprendre de l'autre. Et nous paierons de mille façons la quasi-disparition de la taxe d'habitation. Parce que les municipalités augmenteront le prix des cantines, parce qu'elles réduiront l'accès aux équipements publics. Le gouvernement assure qu'il imposera aux HLM de baisser leurs loyers pour que la baisse des APL soit indolore. Cela aussi nous tombera dessus. Parce que les bailleurs sociaux qui manquent déjà d'argent entretiendront moins bien leurs bâtiments et construiront tout simplement moins. Les retraités seront les premiers à payer la politique de Macron. Avec cynisme, ce dernier a expliqué que l'on peut leur demander un effort de solidarité parce que, je le cite, « les pauvres sont souvent moins les retraités que les jeunes ». Autrement dit, il demande la solidarité entre pauvres. D'abord, on n'a pas attendu pour être solidaires entre nous, et surtout, on n'a pas à se sacrifier au profit des plus riches. Macron était l'homme de la finance et de la grande bourgeoisie quand il travaillait chez Rothschild. Il l'est aujourd'hui en tant que président de la République. Alors tous ceux qui se sont déjà mobilisés contre sa politique, ont eu mille fois raison de le faire. Et il faut que cette protestation continue et qu'elle s'amplifie. Alors saisissons-nous de toutes les possibilités pour continuer. Et la journée de mardi prochain qui est prévue dans la fonction publique doit être elle aussi une réussite. le mépris de classe, et il en sera le serviteur zélé, il n'y a pas de doute. Mais l'offensive contre les travailleurs dépasse les choix d'un Macron, comme elle dépassait les choix d'un Hollande ou d'un Sarkozy. Cette offensive est d'abord le fait de la bourgeoisie, qui mène une lutte de classe acharnée contre le monde du travail pour accroître l'exploitation et son parasitisme sur l'économie. Ce qui a été dénoncé par le magazine Cash Investigation sur Lidl, les cadences infernales, l'absence de pause, les pressions de l'encadrement, les licenciements abusifs, ne sont pas propres à cette entreprise. C'est la guerre patronale qui est menée contre l'ensemble du monde du travail. Et cette guerre, eh bien, elle est inscrite dans le système capitaliste lui-même. Et dans le contexte de crise économique, celle-ci ne peut qu'être toujours plus acharnée. La bourgeoisie ne peut plus espérer accroître ses profits au travers de l'extension de ses marchés. Ils sont saturés, la concurrence est exacerbée. Elle ne peut les augmenter que dans le parasitisme croissant de la finance et au travers de l'aggravation de l'exploitation du monde ouvrier. Les profits supplémentaires des entreprises du CAC 40, eh bien vous pouvez être sûr qu'ils ont été pris sur les travailleurs, sur leur salaire, sur leur emploi, sur leurs conditions de travail, sur leurs congés. Macron a été élu pour servir la bourgeoisie alors qu'elle est confrontée à la persistance de la crise de l'économie capitaliste et alors qu'elle mène une guerre à mort contre le monde du travail. Dans ce contexte, il n'y a jamais eu et il ne peut y avoir d'état de grâce pour le président de la République. Et nous allons vers une période d'instabilité politique et sociale. Et le simple fait que Macron soit contesté au bout de 4 mois, alors qu'il avait fallu attendre 4 ans pour que les travailleurs se manifestent contre la politique de Hollande, le montre. Et la contestation, eh bien, elle peut venir de tous les côtés. Bien des petits artisans et commerçants subissent aussi les conséquences de la crise. Une fraction du patronat et de la petite bourgeoisie souffrent de la finance et du pouvoir de l'argent. Eux aussi, ils ont leurs problèmes et leurs revendications. Et ils savent très bien se battre. On se souvient des manifestations des chauffeurs de taxi, des différents coups de colère des agriculteurs, y compris des coups de gueule des buralistes ou des policiers. Alors on pourrait se dire que tout ça c'est très bien finalement, parce que ça participe à une seule et même protestation. Mais ce n'est pas vrai. Si les travailleurs regardent les autres catégories sociales se plaindre et revendiquer sans se battre eux-mêmes pour leurs intérêts, pour leur propre classe sociale, eh bien cela leur retombera dessus. Parce que si Macron cède sur certaines revendications des artisans ou des commerçants, eh bien il le fera payer aux travailleurs. Alors la seule conclusion que nous avons à tirer, c'est que nous ne devons pas rester muets et passifs. Laisser la protestation à des catégories sociales liées au patronat, à la propriété privée, à l'ordre bourgeois, ne peut que tirer la société dans un sens réactionnaire. Il faut que le monde du travail fasse de la politique en mettant en avant ses intérêts de classe contre la classe capitaliste. Et nous ne sommes pas condamnés à subir pendant 5 ans les coups d'un Macron. Certes, il a aujourd'hui un Parlement à sa botte. Mais cela marchera tant que le monde du travail reste sans réaction. Mais le jour où le monde du travail se lèvera, le jour où la bourgeoisie sentira à nouveau le volcan en éruption sous ses pieds, comme elle l'a senti en mai-juin 1936 et plus près de nous en mai 68, tout peut changer. Pour ne prendre que l'exemple de 1968, avant cette mobilisation, De Gaulle était présenté par le PCF et la CGT comme incarnant un pouvoir fort. C'était le prétexte pour justifier leur passivité et leur politique électoraliste. Tout était suspendu aux élections qui étaient susceptibles d'éliminer De Gaulle et rien ne pouvait être fait avant. Et puis il y a eu cette explosion de mai-juin 68. Les grèves se sont répandues comme une traînée de poudre dans tout le pays. Elles ont bouleversé la situation politique, poussant un peu plus tard De Gaulle à la démission. Et Macron est loin d'être De Gaulle. Alors oui, tout dépend de la capacité des travailleurs à reprendre confiance dans leurs forces. Les mobilisations du 12 et du 21 septembre ont montré que bien des travailleurs n'acceptaient pas les ordonnances Macron et l'offensive capitaliste. Le recul imposé par la contestation des chauffeurs routiers montre aussi qu'il est possible de faire reculer le gouvernement. Tout cela ne doit être qu'un début. Les travailleurs conservent toutes leurs forces collectives et leurs armes de classe. Ce sont les grèves, les manifestations, les occupations d'usines, et nous espérons bien qu'ils s'en serviront. Aujourd'hui, certains travailleurs, des militants de gauche, pensent, je les cite, qu'on n'a finalement que ce que l'on mérite, qu'il fallait bien voter, et que si Mélenchon avait été élu, on ne serait pas dans cette situation. Eh bien si, on serait fondamentalement dans la même situation. On serait confronté à la même rapacité patronale, à la même dictature de la finance, à la même offensive de la bourgeoisie, et le président Mélenchon accompagnerait cette offensive, comme Hollande, Jospin et Mitterrand l'ont accompagné en leur temps. Face à l'attaque de Macron et du grand patronat, beaucoup parmi nous ressentent le besoin d'une solution politique. Oui, la réponse doit être politique. Mais la réédition d'une énième union de la gauche est contraire aux intérêts des travailleurs. Le gouvernement est, disait Lénine, le conseil d'administration de la bourgeoisie. Combien de fois l'avons-nous vérifié, y compris quand le gouvernement se prétendait de gauche? Nous l'avons vérifié avec Mitterrand, Jospin et Hollande. Et c'est leur politique qui a conduit à l'état de démoralisation et de désorientation où se trouve aujourd'hui le monde du travail. Il ne peut pas y avoir de bon gouvernement de gauche dans le cadre de ce système capitaliste. À partir du moment où le président gouverne en respectant la propriété privée du capital, en acceptant la loi du profit et de la concurrence, il se voue à servir les intérêts de cette classe bourgeoise. Tant que la bourgeoisie dominera la société et l'économie du haut de sa propriété, on nous amusera avec les élections et les changements de gouvernement, mais nous continuerons de subir sa dictature. Cela changera si les travailleurs arrachent le pouvoir à la bourgeoisie, s'ils mettent fin à la propriété privée des moyens de production, à la concurrence et à la loi aveugle du profit. Cela changera lorsque les travailleurs se porteront eux-mêmes à la direction des entreprises et de la société, comme cela s'est produit lors de périodes révolutionnaires, au moment de la Commune de Paris ou au moment de la Révolution russe. Le sort des opprimés ne peut changer qu'au travers d'une révolution, au travers d'une période où des millions de femmes et d'hommes décidés à ne plus subir agissent et se dépassent pour prendre collectivement leur sort en main. Dans la plupart des pays, ce sont les événements révolutionnaires qui ont marqué l'histoire, pas les noms des présidents ou les changements institutionnels que tout le monde a d'ailleurs oublié. Il y a eu 1789, la Révolution française. En 1789, la Révolution française. En 1848, toute l'Europe fut secouée par une vague révolutionnaire. En 1871, il y eut la Commune de Paris. La Révolution russe en 1917, qui entraîna dans son sillage révolutionnaire la Finlande, la Hongrie, l'Allemagne, l'Italie, la Chine. En 1936, il y eut la Révolution espagnole. Puis, les soulèvements des peuples colonisés avec, entre autres, les révoltes indochinoises, algériennes, cubaines, et j'en passe. Ce sont ces périodes qui ont fait l'histoire. C'est l'élan révolutionnaire, ce bouleversement des consciences qui transforme des millions de femmes et d'hommes et ouvre des perspectives à toute la société. C'est pour ce genre de période que nous militons. Et nous militons pour que les travailleurs qui portent en eux la possibilité de construire une société sans classe sociale dominante, sans exploitation et sans frontières, puissent prendre la tête de cette révolution. Ce n'est pas une utopie. Nous fêtons cette année le centenaire de la Révolution russe. Il y a 100 ans, les travailleurs et les paysans russes ont fait la preuve que la classe ouvrière pouvait prendre le pouvoir et l'exercer pour transformer la société par en bas, en créer une autre, radicalement différente, basée sur la propriété collective. Cette révolution a dégénéré et débouché sur une des pires dictatures du XXe siècle, la dictature stalinienne. Cela suffit aux anticommunistes pour assimiler Staline, la révolution et l'idéal communiste. Mais au même moment, je rappelle quand même qu'il y avait en Italie la dictature de Mussolini, celle de Hitler en Allemagne. Aux États-Unis, il y avait une répression féroce contre les travailleurs et jamais personne n'assimile celle-ci au capitalisme. Alors il ne faut pas marcher dans la réécriture de l'histoire. Les détracteurs de la révolution russe veulent nous faire croire que les idées de Marx et de Lénine sont inapplicables, voire dangereuses. Autrement dit, il n'y aurait rien à garder de la révolution russe. Nous pensons exactement l'inverse. Cette révolution est une période dont les travailleurs du monde entier peuvent être fiers et qui ne peut que conforter ceux qui aspirent aujourd'hui à changer le monde. Car ce sont les ouvriers et les paysans russes qui réussirent en février 1917, au bout de 5 jours d'insurrection, à renverser un rempart de l'absolutisme en Europe, la dynastie des Romanov, qui régnait depuis 3 siècles sur une véritable prison des peuples. Parce que c'est la révolution des ouvriers et des paysans qui imposa la paix. Alors que ces grandes démocraties, qu'étaient prétendument la France et la Grande-Bretagne, voulaient à tout prix poursuivre, pour leurs buts impérialistes, cette boucherie immonde qui engloutissait jour après jour des milliers de vies. Et avec le parti bolchevique, les ouvriers et les paysans russes réussirent à s'emparer du pouvoir et ils s'en servirent pour transformer la vie des plus pauvres. Au travers des soviets, des conseils, des délégués choisis dans les usines, dans les régiments et dans les villages, ils construisirent une démocratie ouvrière. Comme le raconte un journaliste américain témoin de ces événements, les soviets étaient composés non de politiciens bavards et ignorants, mais d'hommes qui connaissaient leur métier, de mineurs qui savaient ce qu'est une mine, de mécaniciens qui savaient ce qu'est une machine, de paysans qui savaient ce qu'est la terre, de soldats qui savaient ce qu'est la guerre, d'instituteurs qui savaient ce que sont les enfants. Et ce sont ces soviets, avec à leur tête les bolcheviks et Lénine, qui firent ce qu'aucun gouvernement n'a jamais fait. Aussitôt nommé, le gouvernement soviétique publia les traités secrets avec les puissances impérialistes. Il décida la réforme agraire la plus radicale qui soit, en abolissant immédiatement et sans aucune indemnité la propriété des propriétaires fonciers et en distribuant la terre aux paysans qui voulaient la cultiver. Il organisa le ravitaillement et la production pour répondre aux besoins urgents de la population en contrôlant et en expropriant quand la bourgeoisie ne voulait pas collaborer. Il trouva un toit pour tous en imposant aux familles bourgeoises de se serrer un peu et en transformant leurs hôtels particuliers en logements collectifs. Et puis, il donna la possibilité à tous les peuples qui étaient sous la domination de la Russie de se libérer et d'être indépendants. Il a donné encore l'égalité des droits aux femmes. Il a légalisé le divorce et l'avortement, et il a tenté de les libérer des tâches domestiques et de les associer à tous les niveaux du pouvoir. Quel autre gouvernement prétendument démocratique a réalisé tout cela ? Aucun. Alors même si le stalinisme a finalement pris le dessus en déformant et en trahissant les aspirations des révolutionnaires, eh bien on ne peut pas effacer ce qui a été réalisé. La révolution russe est la preuve que les travailleurs sont capables de transformer la société comme aucune autre classe n'est capable de le faire. En 1848, Marx commençait le manifeste communiste par la célèbre phrase « Un spectre hante l'Europe, le spectre du communisme ». Eh bien, la révolution russe a transformé le spectre en force bien réelle qui a ébranlé le monde. Alors oui, le pouvoir des travailleurs, ce n'est pas une utopie. Du pouvoir économique et politiques par en bas, en construisant leurs propres organes de contrôle et de pouvoir, voilà notre perspective. C'est cette conviction profonde qui nous sépare de la politique des partis réformistes que sont le PCF et la France insoumise de Mélenchon. Cette perspective nous distingue sur le long terme, mais elle nous différencie aussi au quotidien, dans la façon de tourner toute notre politique et nos efforts militants vers la classe ouvrière et vers les luttes qu'elle peut mener. À l'inverse des partis réformistes qui sont intégrés dans les institutions et dans la gestion du système et qui n'ont de cesse de se montrer responsables vis-à-vis de la bourgeoisie, nous, nous n'avons aucun fil à la patte et nous sommes en mesure non seulement de soutenir inconditionnellement les travailleurs qui se battent sur leurs intérêts de classe, mais nous sommes aussi pour qu'ils aillent jusqu'au bout de toutes leurs possibilités. Nous ne craignons pas que les luttes ouvrières aillent trop loin, qu'elles empiètent sur la propriété privée ou qu'elles déclenchent l'affrontement général. Et nous militons pour que ces luttes soient dirigées par les travailleurs eux-mêmes, pour qu'à chaque mobilisation, aussi minime soit-elle, ils puissent discuter et décider eux-mêmes de leur action. Cela aussi, c'est une différence entre eux que nous avons, en particulier avec le parti de Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon ne se situe pas seulement dans le cadre du capitalisme. Ce n'est pas seulement un réformiste qui prétend pouvoir moraliser et humaniser le capitalisme. C'est aussi un politicien étranger à la classe ouvrière. Son problème n'est pas d'armer la classe ouvrière. Ce n'est pas de lui apprendre sa propre force. Ce n'est pas de la conduire à agir par elle-même. Bien, nous, c'est notre raison d'être. Nous militons pour que la classe ouvrière accède à la conscience que la tâche de transformer la société dépend d'elle et qu'elle en est capable. Le monde du travail est sans cesse rabaissé quand le patronat et la bourgeoisie sont, eux, mis sur un piédestal. À les entendre, ce sont eux, les patrons, qui donnent du travail aux salariés. Ce sont eux, les patrons, qui font vivre les travailleurs. Mais qui mouille sa chemise sur les chantiers du bâtiment et des travaux publics? Qui s'esquinte la santé sur les chaînes de montage, de l'agroalimentaire, de l'automobile? Qui se dévoue au chevet des malades, des anciens? Qui se lève à 4 heures du matin pour rejoindre les bataillons du nettoyage? Qui fait rouler les trains pour amener des millions de salariés au travail? Et en plus de faire tout le travail intellectuel et manuel, nous produisons aussi le profit qui est exigé par le capital. Alors, n'en déplaise à la bourgeoisie et derrière elle, à une kyrielle de petits patrons arrogants et méprisants, c'est notre classe qui les fait vivre. C'est nous qui entretenons la petite frange d'ultra-riches qui compose le monde bourgeois. Et nous l'entretenons au premier sens du terme. Car même dans leur quartier, même dans leur palace, même sur les yachts de luxe, ils ont besoin de leurs femmes de ménage, de leurs chauffeurs, de leurs cuisiniers et de leurs comptables. Collectivement, les travailleurs produisent toutes les richesses. Ils résolvent nombre de problèmes techniques. Mais parce qu'on leur met cela dans le crâne dès le biberon, ils pensent qu'ils n'ont pas les compétences pour diriger et qu'il faut bien des patrons pour cela. On nous rabâche que pour faire fonctionner l'État, il faut avoir fait de hautes études, appartenir à l'élite. Parce que certains seraient qualifiés pour diriger, il faudrait les laisser faire. Il faut s'opposer à cette idée-là. Collectivement, les travailleurs sont tout à fait capables de diriger la société. Et ils le feraient mille fois mieux que les capitalistes et leurs serviteurs politiciens. Parce que eux, au pouvoir, ils ne seraient pas aveuglés par la recherche du profit individuel. Et puis, il faut tout le culot d'un ex-banquier dont toute la classe sociale roule sur l'or et se vautre dans un luxe insolent pour accuser d'égoïsme ou de corporatisme lorsque les travailleurs revendiquent. Au contraire de la bourgeoisie, lorsque les travailleurs défendent leurs intérêts, ils représentent ceux du plus grand nombre et même l'avenir de l'humanité. Parce que, et je finirai là-dessus, l'enjeu du combat qui nous oppose à la bourgeoisie et au capitalisme dépasse la défense de nos intérêts matériels. Il n'y a pas que l'effondrement de l'économie et la montée de la pauvreté qui nous menacent. Il y a aussi les dérèglements écologiques, les menaces guerrières, le terrorisme. En réalité, la domination de l'argent et le capitalisme pourrissent tout. Ils désagrègent les rapports humains, ils détruisent la planète et menace la survie de l'humanité. Alors oui, le combat des travailleurs est le seul à offrir une issue à l'humanité. La classe ouvrière, les exploités, représentent une force sociale unique et irremplaçable. Comme le disait Marx, ils n'ont rien à perdre que leur chaîne. Et de la même façon qu'ils font aujourd'hui tourner toute la société pour le compte des capitalistes, eh bien ils seront capables demain de la faire tourner pour les intérêts collectifs de la grande majorité. Aucune autre force sociale ne recèle cette force révolutionnaire et cette capacité de transformer et de reconstruire une société. Dans le passé, de grands partis ont défendu cette perspective. Aujourd'hui, il n'en existe plus, et bien c'est ce parti que nous voulons reconstruire. Alors, aidez-nous à faire en sorte qu'il y ait des femmes et des hommes, des femmes et des hommes, pour défendre autour d'eux, dans les entreprises et dans les quartiers populaires, cette perspective de transformer la société pour en créer une autre, une société communiste.